Ben oui, de la bonne musique disco pour parler d'un roman qui s'intitule « Né pour être vivant » avec l'auteur Yann Fortier. Bonjour, M. Fortier.
Bonjour Hélène, ça va bien?
Oui, merci, vous?
Oui, très bien, merci.
Alors, votre roman raconte en fait une histoire très divertissante, une histoire folle, critique à la fois, celle d'Antoine Ferrandez et non de Patrick Hernandez qui chantait la chanson qu'on vient d'entendre. Antoine va connaître la gloire, dis-je bien, grâce ou à cause d'une chanson. Et l'idée de votre roman, Yann, est-ce qu'elle est survenue grâce ou à cause de ce succès disco qu'on vient d'entendre?
C'est une bonne question. J'imagine que ça a peut-être germé un vendredi soir où j'étais en train d'écouter différentes chansons. Mais je m'intéresse beaucoup à des phénomènes des fois un petit peu moins connus. Je fais un petit peu de recherche, des fois en ligne, juste pour m'amuser. Puis comme je suis vraiment un passionné de musique, à un moment donné, je réalise que bon, cette chanson-là, non seulement beaucoup de gens la connaissent, puis la connaissent comme étant un one-hit wonder.
Oui.
Quand on découvre en plus que c'est un chanteur français qui la chante, donc Patrick Hernandez en l'occurrence, et que non seulement ça, mais qu'il en a vendu énormément.
Autant que le personnage de votre roman?
Autant que le personnage du roman. C'est ce que lui dit, puis j'ai jamais vu nulle part de contestation de ce côté-là. Là, on parle à peu près de 25 millions ouais. de 45 tours un peu partout dans le monde, là, à partir du fin 79, peut-être jusqu'au début des années 80. Lui-même dit, en fait, ce qui est fou, c'est de penser que non seulement ça, mais cette chanson-là devrait s'inscrire dans un 33 tours, donc ce qu'on appelait un long jeu, un disque avec une douzaine de chansons. Mais que le titre a tellement été fort, puis ce qu'il a fait après, en fait, il n'a même jamais sorti de disque à probablement parler avec cette chanson-là. Donc, on parle ici là, vraiment de ce que les Français appellent des singles, donc vraiment à peu près 25 millions de singles qui continuent même aujourd'hui en droit d'auteur, selon sa propre évaluation, de les rapporter quelque chose comme entre 800 et 1200 euros par jour.
Chanson qui assure ses beaux jours.
Ben, c'est une rente, en fait, carrément. Ouais. Puis c'est ça. Donc, il y a peu de chansons qui ont été faites en France qui ont vendu plus. En fait, encore là, en termes de recherche, je pense que t'as Petit Papa Noël de Tino Rossi là, qui se plante tout. Là, si on regarde juste dans le marché français avec à peu près 5 millions de ventes. Et peut-être Belle qui en a vendu plus, mais sinon, c'est tout.
Vous en parlez d'ailleurs dans votre roman.
Dans le monde, clairement, c'est le seul.
Et qu'est-ce que vous avez voulu exprimer à travers, c'est quand même une bonne brique, là, mais ça se lit très, très bien.
Oui.
c'est publié aux éditions Marchand de Feuilles en passant, 489 pages. C'était quoi le but de l'opération, si je peux appeler ça comme ça?
C'est-à-dire que mon vendredi soir a quand même pris une tangente insoupçonnée, là, effectivement. C'est-à-dire que la chanson sert un peu de prétexte. Je dirais pour explorer différentes choses. Justement, cette période-là, premièrement, de la fin des années 70 et début des années 80, période où à l'époque j'ai environ 10 ans, et où il se passe beaucoup de choses. On pense, puis encore plus maintenant là avec tous les bouleversements qu'on vit quasiment de jour en jour et de semaine en semaine actuellement, que les choses sont difficiles, elles le sont certainement, mais si on se reporte à cette époque-là aussi, là, on réalise pas à quel point, je veux dire, pendant une semaine, c'est le pape qui subit un attentat, Jean-Paul II, la semaine d'après ou la semaine d'avant, à peu près, c'est Ronald Reagan, le président des États-Unis. Deux, trois semaines après, on entend pour la première fois parler du sida, quand on parle de pandémie, là, on en parle d'une qui est vraiment, tu sais, encore présente et qui a fait peut-être plus que 30 millions de morts.
Tout à fait.
Puis émerge, en fait, deux choses, à mon avis, très importantes. Premièrement, les chaînes d'information en continu, comme CNN. Puis toutes ces déclinaisons, puis tout ce qui est aussi les chaînes de vidéoclips en continu aussi, plus les jeux vidéo. Donc, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à l'écran, puis ça nous ramène à, justement, quand tu es un petit cul d'une dizaine d'années, Peut-être pour la première fois de l'histoire, tu veux plus aller jouer dehors avec tes amis, mais tu veux rester la fin de semaine dans ton sous-sol en avant de ton écran. Et ce qui se passe là est quand même assez fascinant, je dirais. C'est un peu ça qui peut-être sous-tend un peu la chose, mais en même temps, ce qu'il faut que les gens comprennent, l'histoire est un peu difficile à expliquer parce qu'on suit justement cette vie-là du jeune Antoine Ferrandez à partir de son enfance jusqu'à son succès, puis de ce qu'il va faire, si on veut, avec ce succès-là. Ce n'est surtout pas la biographie de Patrick Hernandez. En fait, le titre et la chanson servent de prétexte tout simplement pour y inventer de A à Z une vie complète.
Oui. Et la chanson d'Antoine Ferrandez, qui va connaître un succès monstrueux, interplanétaire, oui. s'intitule oui. non pas Born to be Alive, comme on vient d'entendre, mais
to
c'est.
To be Alive, oui.
Ouais, To be Alive, merci. Mais Born to be or Not to be Born. Ça se ressemble
oui,
un peu quand même.
Ça se ressemble un peu. Évidemment, c'est un clin d'œil. Puis, pour la petite histoire, moi, j'ai contacté Patrick Hernandez au tout début.
Ah oui?
Oui, tout à fait. Pour l'aviser, par courtoisie, pour pas qu'il soit trop surpris non plus. Je lui avais envoyé le manuscrit, il m'a réécrit pour me dire qu'il était tout à fait à l'aise avec ça. Puis il m'a même écrit la semaine dernière, il m'a envoyé un courriel pour me dire qu'il l'avait... c'est-à-dire qu'il avait vu passer justement le fait que le livre était lancé,
oui.
Qu'il me souhaitait la meilleure des chances avec ça, puis qu'il était content. Puis
Il a quel âge aujourd'hui, M. Hernandez?
Il a 72 ans, je dirais que depuis peut-être 8-9 ans, c'est un phénomène qu'on voit un peu partout, c'est-à-dire qu'en France, il participe à une tournée, ça s'appelle, je me souviens pas, en tout cas, il y a le mot, ah oui, c'est ça, ça s'appelle Star 80.
Ah oui.
Et donc, lui, avec d'autres artistes, chanteurs, mm-hmm. chanteuses qui étaient populaires dans les années 80, font des tournées. Mais là, on parle pas là des tournées de sol d'église, là, on parle de Stade de France. Là.
C'est fou, ça attire tous ceux qui ont trippé sur ce succès-là, qui ont maintenant peut-être 50, 60 ans, mais la nostalgie, ça peut être payant. Et est-ce que vous l'entendez, oui. vous, dans votre tête, Yann, « Born to be or not to be born », même si c'est pas une chanson qui existe pour vrai?
Ben, c'est-à-dire que ceux qui lisent le livre se font instiller quand même la vraie chanson, « Born to be alive », comme un sérieux ver d'oreille.
Oui.
Je l'écoutais avant d'entrer en onde. J'en parle un peu dans le livre aussi, à un moment donné, je la décortique, la chanson, évidemment. Pis,
le cœur nous palpite quand vous la décortiquez.
Oui, c'est ça. La fin de la chanson est quand même interminable, là, on va se le dire, parce que, mais c'est ça, à cette époque-là, il y a cette espèce de phénomène-là de répétition. Il dit à la fin, le « Born to be alive », s'il ne dit pas 48 fois dans sa chanson, il ne dit pas du tout. Des artistes comme la compagnie Créole, on le sait que ça peut faire. Là, ça fait rire des oiseaux, là, j'ai juste à le dire. Puis ouais. d'un coup, vous allez peut-être l'avoir dans votre tête jusqu'à la fin de la journée.
Des chansons velcro qu'on appelle aussi des vers d'oreille.
Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Puis lui, il en a créé un très sérieux, alors que à la base, c'est un chanteur qui trippe sur des Beatles. Son succès, il l'a relativement tard. Hein. Souvent, c'est dans la vingtaine là, que la chose éclate. Lui, c'est dans son début trentaine. Mm-hmm. Il faisait partie d'un groupe rock.
Et là, on parle d'Antoine, là.
C'est-à-dire qu'on parle d'Antoine slash Patrick, parce oui. que ça, ce volet-là est vrai, si on veut.
Ah, OK, parce que oui, Antoine propose une chanson folk qui va devenir quelque chose de totalement différent à cause de Jean-Loup, là, le personnage de votre roman.
Exactement. Puis bon, lui, il avait oublié ça, cette chanson-là. Puis 4-5 ans plus tard, il y a un producteur qui disait « on va essayer de la faire en version disco ». Lui, comme bien d'autres, il n'est pas nécessairement super à l'aise avec cette idée-là de disco. Il y a beaucoup de gens qui ont pris le virage, pour ceux qui connaissent un peu même des groupes comme les Bee Gees qui ont écrit les plus gros hymnes disco quand ils ont commencé. Ils faisaient des albums conceptuels, là, doubles. Il y en a un qui s'appelle Odessa, c'est magnifique avec des cordes et tout ça. Mais il y a beaucoup de monde qui ont pris cette tangente-là. Puis Patrick Hernandez, un petit peu. À son avantage, puis en quelque part à son désarroi. T'sais. Fait que je m'amuse un peu avec ça aussi oui. dans le roman. Il est comme une victime non consentante, mais mais fondamentalement aussi, tu sais,
Il en profite, mais en même temps, on sent que au début, il était pas du tout d'accord, de toute façon, là. Et
oui.
Là, c'est ça. Mais vous, je sais pas si je pense pas que c'est un règlement de compte, là, mais vous aimez le show business, mais en même temps, vous le critiquez. Vous parlez à un moment donné du processus de création. C'est ça, je me disais, je vais lui poser cette question-là, si je vous demande de me parler de votre processus de création, parce que vous dites que c'est une question très, très large, et c'est tellement large que Antoine Ferrandez, le héros de votre roman, peut engager une doublure pour répondre à ce genre de questions génériques, entre guillemets. C'est très drôle.
Oui, ben c'est ça. C'est-à-dire que comment je dirais ça, tu sais, chaque chapitre est peut-être une petite histoire en soi, une petite réflexion en soi, puis c'est à l'intérieur duquel justement le Antoine Ferrandez puis son succès aussi devient pour moi un prétexte aussi à le faire voyager, à aller dans des hôtels, à prendre l'avion, à rencontrer des gens, à vivre des histoires, tu sais, plus ou moins rocambolesques, des fois tragiques aussi, puis tout ça. Mais puis pour revenir peut-être au fondement de la question, ben c'est sûr que de temps en temps il peut avoir des réflexions, des réflexions aussi du genre que celle que vous mentionnez. C'est ça, j'ai un peu perdu le fil.
Non, ben c'est ça, c'est parce que je vous demandais si vous aviez un regard critique sur le show business, sur la radio commerciale, parce que quelquefois, c'est assez mordant, là, parce que vous vous moquez un peu des entrevues, parce que Antoine Ferrandez est tellement populaire qu'il est super sollicité, puis il peut pas être partout à la fois.
Ça.
Alors, c'est ça.
En fait, j'ai été notamment attaché de presse pour une compagnie qui s'appelle l'équipe Spectra, qui produit notamment le Festival de jazz, la Francophonie de Montréal et autres, puis qui avait beaucoup d'artistes en gestion. En fait, j'aime les artistes, j'aime la pop autant que j'aime écouter de la musique expérimentale pointue, analogique des années 60. J'adore tout l'univers musical. Là, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise musique. Il y a juste des bonnes ou des mauvaises chansons, ou des moins bonnes chansons, si on veut. Puis, je me laisse vraiment entraîner par ça. Mais effectivement, on le sait, c'est quoi, hein? On a peu de temps pour décortiquer. Les animateurs, les animatrices, les journalistes ont peu de temps aussi pour approfondir et ont peu d'espace. L'espace, que ce soit en minutes, que ce soit en termes de lignes dans un quotidien ou quoi que ce soit, c'est un luxe, autant pour le journaliste que la personne qui est interviewée. Puis effectivement, je m'étais dit, à un moment donné, c'était une réflexion que j'avais déjà eue en me disant, hey, tabarouette, ça serait quasiment plus simple si on avait une doubleur pour répondre et pour multiplier
les... Mais vous dites que c'est déjà arrivé, là.
D'aller chercher. Ben, c'est-à-dire que tout ça, c'est inventé. Donc, ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que c'est un petit peu... Ce roman-là, je m'amuse énormément avec le fait, par exemple, je vais citer pendant des pages et des pages une étude avec... Puis je vais faire intervenir dans l'étude des intervenants en nommant leur nom, puis etc. Mais il n'y a rien qui existe, ni l'étude, ni les gens.
OK, c'est de l'invention pure, parce que vous nommez des noms, le Rick Ocasek, Air Supply, qui se sont engagés des doublures... C'est pas vrai.
C'est ça, exactement. Donc, exactement ça. Donc, tout ça, donc il y a une espèce d'effet poupée russe qu'on trouve un peu partout dans le roman, comme par exemple, je vais faire allusion à une tragédie qui se passe au Brésil. Puis là, je vais faire une référence à un article de Paris Match. Puis là, je vais citer l'article de Paris Match sur plusieurs pages, mais j'ai écrit et inventé aussi l'article de Paris Match basé sur une nation qui n'a jamais elle-même eu lieu au Brésil.
Alors, il faut se laisser aller parce qu'il y a quand même des faits réels. Quand on parlait tantôt de l'attentat contre Ronald Reagan, ça a vraiment
ça
a eu lieu. Et terminant, il ne reste plus beaucoup de temps. Yannick, vous parliez du temps qui est un luxe, mais à Canalem, on a quand même du temps. Mais c'est quand même ma dernière question. Vous qualifiez votre roman d'aérogare. Pourquoi?
Ben, c'était un peu pour mettre en porte-à-faux ce qu'on appelait à l'époque des romans de guerre. Puis justement, notamment dans les années 80, c'est un peu un clin d'œil. Puis aussi parce que je pense que, puis encore plus en temps de pandémie où on ne peut pas voyager, on ne peut pas bouger, je pense que c'est quelque chose qui fait voyager dans le bon sens du terme et même dans un sens un peu physique parce que le personnage va un peu partout. Je pense que c'est aussi... puis il y a pas mal d'actions aussi qui se passent dans des aéroports, dans des avions aussi, avec encore là des réflexions que souvent j'ai eues puis que bon je me suis permis de transmettre. Mais c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, je pense fondamentalement aussi, c'est un roman qui est destiné à faire sourire, à faire rire puis à passer du bon temps. On n'est pas dans la torture, au contraire.
Pas
je
du
pense
tout.
Qu'on est dans un beau voyage.
On est dans l'humour, dans la dérision, dans le plaisir. Ça paraît que vous avez eu du fun, je vais utiliser ce mot-là, à l'écrire.
Oui,
ben, Yann
vraiment.
Fortier, merci pour cette entrevue. Je rappelle
merci
le titre de votre roman, qui est un roman Feu d'artifice, né pour être vivant, publié aux éditions Marchand de feuilles. Merci, bon succès.
Grand merci. Au revoir.
Au revoir.